Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient, RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. Et ce matin, nous attendons vos réactions sur la situation à Bosso, dans le sud-est du Niger, après l'attaque menée vendredi dernier par Boko Haram. Je vous rappelle le bilan particulièrement lourd, 26 militaires tués et des dizaines de milliers de civils qui ont été contraints de fuir cette localité. Alors comment expliquer l'ampleur de cette opération djihadiste? Pourquoi l'armée nigérienne a-t-elle finalement été dépassée? D'ailleurs, ce matin, la situation est très confuse sur place. On ne sait pas véritablement qui contrôle la ville. Le maire de Bosso assure sur RFI qu'elle est occupée par des éléments de Boko Haram, alors que le gouvernement affirme que Bosso est totalement sous contrôle. Vos réactions, en tout cas, nous intéressent ce matin. Nous parlerons évidemment de l'armée nigérienne. 33 9 693 693 70. Vous continuez également à poster vos commentaires sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Lamine nous dit que le Niger est considéré par Boko Haram comme le maillon faible. Nos militaires sont mal équipés. Depuis toujours, cette région du Sud-Est est négligée par les autorités et la population souffre de plus en plus. Autre réaction, celle de Kaba, qui affirme également sur Facebook que le Niger seul ne peut pas faire face aux attaques de Boko Haram. Le pays doit être appuyé par les Occidentaux, notamment en matière de renseignement. L'existence même de nos États est menacée, car on ne voit pas d'avancée dans la lutte contre le terrorisme, affirme donc cet auditeur du Niger. Nous en parlerons ensemble dans une trentaine de minutes et d'ici là, évidemment, vous nous appelez, toute l'équipe vous attend au standard. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux, eh bien, vous nous appelez, vous nous contactez et la rédaction s'efforce évidemment de répondre au plus grand nombre d'entre vous chaque matin. On va commencer avec Alban qui nous appelle de Kaï au Mali. Bonjour Alban.
Bonjour Juan, bonjour RFI.
On vous écoute, quelles sont vos questions?
Juan, les députés allemands ont voté la semaine dernière une résolution reconnaissant le génocide des Arméniens. Je voudrais savoir, Juan, pourquoi ce n'est que maintenant que l'Allemagne reconnaisse officiellement ce génocide? Et quel impact aura cette résolution sur la relation Turquie-Allemagne?
Oui, d'autant que le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis que la décision allemande allait sérieusement affecter les liens entre la Turquie et l'Allemagne. Bonjour Pascal Thibault.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant d'RFI à Berlin. C'est donc à la quasi-unanimité que les députés allemands ont reconnu le génocide arménien qui a eu lieu il y a 100 ans, quasiment jour pour jour. C'était entre 1915 et 1917. Bonne question d'Alban qui est souvent revenu au standard ces derniers jours. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour que l'Allemagne reconnaisse ce génocide, alors que, rappelons-le, 11 autres pays de l'Union européenne l'ont déjà reconnu?
Alors, au départ, cette résolution aurait dû être votée à l'occasion du centenaire du début du génocide, c'est-à-dire il y a un an déjà. Simplement, à l'époque, déjà, il y avait un certain nombre de résistances, notamment de la part du gouvernement qui ne voulait pas brusquer Ankara. Donc, il y a eu des retards. Et finalement, à l'arrivée, on s'est mis d'accord, mais avec quelques mois donc de retard, sur une résolution présentée par non seulement la Grande Coalition, droite-gauche, mais aussi présentée par les écologistes. D'où cette énorme majorité que vous avez évoquée. Simplement, maintenant, certains disent, d'un point de vue pragmatique, si on avait fait ça il y a un an, on aurait eu moins de soucis aujourd'hui avec Ankara, puisqu'à l'époque, on n'était pas, en tout cas l'Allemagne, dans une dépendance telle par rapport à la Turquie, notamment en ce qui concerne l'accord récent avec l'Union européenne sur les réfugiés. Donc, c'est ça qui explique le retard. Maintenant, pourquoi, effectivement, cette résolution aurait pu être adoptée à l'occasion d'un anniversaire précédent, 80, 90 ans. L'Allemagne a attendu plus longtemps. Je pense aussi que, globalement, en raison des liens particuliers, de la présence d'une population d'origine turque importante en Allemagne, la plus grande diaspora hors de la Turquie, avec 3 millions de personnes, il est sûr qu'on voulait aussi ménager et les relations bilatérales et les réactions potentielles de cette majorité, de cette minorité en Allemagne, qui d'ailleurs a réagi assez négativement, en partie d'ailleurs, il faut le dire, instrumentalisé par Ankara. Ouais. Il faut dire aussi que là, le Parlement s'est imposé face au gouvernement qui se serait bien passé de cette résolution, il faut le dire aussi.
Il faut le dire et il faut d'ailleurs souligner que ni la chancelière Angela Merkel, ni le vice-chancelier, ni même le ministre des Affaires étrangères n'ont participé au vote la semaine dernière, ce qui donne vraiment l'impression d'un certain embarras au sein du gouvernement.
Tout à fait, ça souligne bien le fait qu'ils se seraient bien passés de cette résolution. Ils avaient, ça tombait à pic, des rendez-vous plus importants. Le ministre des Affaires étrangères était à l'étranger. Angela Merkel était dans une autre manifestation ailleurs à Berlin qui sans doute aurait pu, à laquelle elle aurait pu renoncer, mais elle voulait par son absence peut-être un peu ménager Ankara, même si on l'a déjà évoqué, les réactions négatives et assez polémiques de la Turquie et du président Erdogan n'ont pas manqué immédiatement après l'adoption de la résolution. L'ambassadeur turc a été dans la journée, jeudi dernier, rappelé dans son pays.
Ouais, ce qui est d'ailleurs un grand classique à chaque fois qu'un pays reconnaît le génocide arménien. L'Allemagne doit-elle s'attendre à des représailles désormais, Pascal Thibault ?
Alors on a vu qu'après le rappel de l'ambassadeur, il y a eu aussi des déclarations un peu plus conciliantes du nouveau Premier ministre turc. Ceci dit, le président Erdogan, encore depuis l'Afrique où il était en déplacement, a fait des déclarations assez critiques contre l'Allemagne, à la fois sur le passé de l'Allemagne, l'Holocauste, lui reprochant de ne pas avoir fait le ménage chez elle, ce qui est un petit peu, c'est une déclaration quand même un peu difficile à prendre au sérieux vu le travail de mémoire qui a été fait ici. Et puis là, il s'en est également même pris particulièrement aux députés du Bundestag d'origine turque, estimant qu'il faudrait même faire des tests sanguins pour voir si leurs origines étaient bien celles qu'on connaît. Donc évidemment, ça a provoqué des réactions également de nouveau assez violentes ici en Allemagne dans les 24 ou 48 dernières heures.
Merci.
Donc les conséquences pourraient... Bon, ce qu'on craint, bien entendu, c'est effectivement une mise en cause du traité sur les réfugiés conclu, non pas par l'Allemagne, mais entre l'Union européenne et la Turquie. Mais l'Allemagne a joué un rôle fondamental.
Oui, c'est l'Allemagne qui porte cet accord.
Tout à fait. Ceci dit, on veut rester ici serein et on veut tenter, on l'a vu aussi, les orateurs ont ménagé Ankara la semaine dernière en soulignant qu'il ne s'agit pas de donner une leçon de morale, qu'il ne s'agit pas de condamner le gouvernement actuel, mais le gouvernement de l'époque. Et on veut dissocier clairement ces deux dossiers. La question est de savoir si c'est aussi la position que prendra Ankara une fois les réactions à chaud passées.
On va suivre ça, évidemment. Merci, Pascal Thibault, d'avoir été en direct avec nous de Berlin. Alban, on a répondu à vos deux questions ?
Non, merci, Juan.
Eh bien, merci à Pascal Thibault, donc le correspondant. Bonne journée à Caille. Il est 10h18 ici à Paris. On va continuer à parler du génocide arménien. Vous avez été plusieurs à nous appeler pour comprendre effectivement les enjeux. Mamadou, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez, vous, d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Oui, effectivement, je vous appelle d'Abidjan.
On vous écoute.
Je voudrais savoir pourquoi les autorités turques s'opposent encore systématiquement à la reconnaissance alors que les historiens en parlent depuis longtemps.
Alors, c'est vrai qu'Ankara conteste depuis toujours le terme génocide. Les autorités turques préfèrent parler de massacre mutuel, de guerre civile. On voit bien cette bataille des mots entre la Turquie et l'Arménie. Ahmet İnsel est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences politiques à l'université Galatasaray à Istanbul. On vous doit plusieurs ouvrages, notamment « La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire » publié aux éditions La Découverte. Pourquoi Ankara refuse de reconnaître le génocide arménien ?
Comme la plupart des pays qui n'ont pas fait leur travail de mémoire, comme on a souligné tout à l'heure à propos de l'Allemagne, la Turquie, évidemment, vit comme un affront. La plupart de la population, et particulièrement les hommes d'État, vivent comme un affront l'accusation ou la dénomination du génocide depuis très longtemps. Ça, c'est le propre du négationnisme partout. Il y a une deuxième dimension au niveau de la population en général. 90 ans d'histoire oubliée, d'histoire ignorée, d'histoire officielle totalement dénaturée, fait que la population en grande partie ignore les faits. Et aujourd'hui, quand on leur met devant eux les livres d'histoire. Certains sont traduits en turc aujourd'hui, il faut le connaître, notamment par exemple les livres sur le génocide arménien de Raymond Kevorkian est publié, c'est le livre le plus détaillé sur les génocides. Les gens découvrent, ils tombent des nues, ou parfois ils trouvent que ce sont des exagérations, des mensonges.
Ouais. Et en même temps, excusez-moi, Ahmed Insel, le discours officiel a tout de même évolué ces dernières années. On peut critiquer Recep Tayyip Erdogan, mais en même temps, on se souvient que le président a présenté ses condoléances au petit-fils des Arméniens tués en 1915. Alors on pourrait dire, oui, mais enfin, il s'est simplement contenté de cette déclaration et depuis, il ne s'est plus rien passé. Mais c'est la première fois qu'un président turc reconnaît, on va dire, la souffrance des Arméniens.
Je connais la souffrance, mais la logique qui a été menée par le président de la République quand il était Premier ministre et son ministre des Affaires étrangères, c'est la logique de reconnaissance mutuelle des souffrances. C'est-à-dire que les Arméniens ont souffert, mais aussi les musulmans, les Turcs ont souffert. C'était la Première Guerre mondiale, tout le monde a souffert. Donc du coup, c'est un nivellement de toutes les souffrances. Alors qu'il y a eu une politique délibérée du gouvernement jeune turc de l'époque de l'Empire ottoman, c'est vrai que ce n'était pas la République turque et de Turquie, délibérée de nettoyage ethnique des populations chrétiennes et particulièrement arméniennes. Mmh. Et il y a aujourd'hui dans le refus de cette reconnaissance, il y a une troisième dimension, c'est la peur. La peur, non pas des conséquences juridiques, parce que tous les acteurs de ces crimes sont morts maintenant, donc vous ne pouvez plus mettre devant les tribunaux les auteurs de ces crimes. Donc ça, c'est fini. Mais s'il y a une reconnaissance du génocide officiellement par l'État turc, les populations et le gouvernement ont peur qu'il y a des demandes de réparation.
Oui, des réparations financières, mais restitution des biens, puisque la spoliation était quand même un des éléments fondamentaux du génocide.
Très, très important. Oui. Une énorme transfert de patrimoine, de richesse des populations arméniennes vers des populations musulmanes de la bourgeoisie nationale turque est en partie constituée par ça. Donc, du coup, il y a une dimension extrêmement importante. En fait, le refus est aussi lié à un tabou qui est constitutif, un tabou extrêmement fort, constitutif de la République de Turquie. Donc du coup, c'est quelque chose de très très fort, difficile pour accepter pour la population turque. Et un gouvernement qui veut être élu aujourd'hui en Turquie est sûr de perdre les élections s'il fait un pas de plus dans le sens de la reconnaissance. Et donc du coup, nous avons un vrai problème, non pas politique, mais un vrai problème sociétal.
Merci Ahmed Insel de votre analyse, votre expertise. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'université de Galatasaray à Istanbul. Merci à vous Mamadou, bonne journée à Abidjan. N'oubliez pas dans un quart d'heure maintenant vos réactions sur la situation dans le sud-est du Niger après la violente attaque menée vendredi dernier par Boko Haram. 26 militaires tués, mais aujourd'hui des dizaines de milliers de civils sur les routes dans cette région. Le HCR parle de 50 000 personnes qui ont fui la localité. D'ailleurs, vous avez certainement entendu sur notre antenne ce matin le responsable du CICR à Niamey affirmer que la ville s'était vidée, Bosso est vide de sa population. On va en parler évidemment ensemble et on parlera de la réaction ou de l'inaction de l'armée nigérienne. 33 9 693 693 70. Apoulos nous appelle de Daloa. Bonjour Apoulos.
Bonjour à vous, Juan Gomez. Bonjour aux auditeurs de la radio mondiale, RFI.
Merci.
Je voudrais intervenir sur la situation qui prévaut au Mozambique.
Oui.
Depuis quelque temps, nous assistons à un retour de la violence armée entre l'opposition et le pouvoir mozambicain. Comment peut-on expliquer cette escalade de la violence? Alors, n'y a-t-il pas un risque de guerre civile dans ce pays? Ou au contraire, de nouvelles négociations sont-elles possibles pour ramener la paix à Mozambique.
Oui, c'est vrai qu'après la guerre civile qui a ensanglanté le Mozambique, le pays vit une nouvelle période d'instabilité. On constate que les confrontations armées se sont multipliées ces derniers mois entre les forces de sécurité et les membres de la RENAMO, qui est le principal parti d'opposition. On va tout vous expliquer avec Michel Cahen, qui est en direct avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'Afrique de langue portugaise, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes en ce moment détaché notamment à l'Institut des sciences sociales de Lisbonne. Faut rappeler à nos auditeurs qu'il y a 25 ans, un accord de paix avait été signé pour mettre fin à cette terrible guerre civile qui aura duré 16 ans. Une guerre qui a opposé donc le Frelimo, qui est aujourd'hui au pouvoir, et la RENAMO, qui est donc aujourd'hui le principal parti de l'opposition. Expliquez-nous pourquoi les frères ennemis ont repris les armes.
Alors il est vrai qu'en 1992, il y a eu les accords de Nkomati, avec notamment une forte médiation internationale et de l'Église catholique, qui ont mis fin à une guerre civile qui avait commencé à partir de 1977. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le Mozambique avait été à ses frontières, à l'Afrique du Sud, donc pays de l'apartheid, et la Rhodésie, qui était à peu près la même chose. Donc le Mozambique a payé très cher, de par sa position géopolitique, le fait de vouloir créer un régime dit marxiste-léniniste face au régime de l'apartheid. Cela dit, cette volonté de bouleverser la situation, notamment des paysans, de moderniser à toute vitesse, sans gains sociaux pour les paysans, a fait que la guérilla qui était soutenue par l'apartheid a été soutenue par une partie de la paysannerie. Et c'est pourquoi la guerre, qui au début était une guerre d'agression, est devenue vraiment civile. Donc effectivement, il y a eu un accord de paix en 1992. Cela dit, le pouvoir est resté le même. Le pouvoir n'a absolument pas ouvert, non seulement politiquement, il n'y a jamais eu de gouvernement de coalition, mais il n'a jamais ouvert socialement. Les richesses sont toujours restées dans les mains des mêmes gens, et avec une hypertrophie des investissements étrangers dans la capitale, le Sud, ce qui a eu une expression ethnique, puisque les gens disent que tout l'argent va pour les Shangan, c'est un groupe ethnique important du Sud. Et donc la RENAMO, sous forte pression du Frelimo, donc l'historique Front de Libération de Mozambique, qui est toujours au pouvoir après plus de 40 ans, s'est senti en permanence marginalisé, mais non seulement la RENAMO, mais des secteurs entiers de la population. Il y a des déséquilibres considérables dans ce pays, entre les régions du Sud et les régions du Nord, entre la ville et la campagne, etc. etc. Mais on peut dire quand même que le Frelimo avait réussi à affaiblir la RENAMO pendant beaucoup d'années, notamment jusqu'en 2009, la RENAMO était très très affaiblie. Et jusqu'à un point de presque de non-retour, ce qui fait qu'il y a eu presque une révolte des anciens combattants de la RENAMO contre leur secrétaire, contre leur président, Afonso de la Cama, accusé de ne pas réussir à affronter le Frelimo dans les élections, ce qui bien qu'ils ont fait pression sur lui pour être plus actif, et le Frelimo, il a commencé à l'être, et le Frelimo a réagi très violemment, et à ce moment-là, il s'est réfugié dans son ancien fief de la Serra de Gorongosa,
dans la montagne.
Dans le centre du pays.
Oui. Bon, donc on comprend bien effectivement les raisons qui ont poussé donc la RENAMO, on va dire, à reprendre les armes, même si cette ancienne rébellion n'a jamais déposé les armes. Mais comment expliquer que le chef de l'opposition mozambicaine soit obligé aujourd'hui de se cacher, et il accuse le pouvoir de vouloir l'assassiner?
Ah, mais c'est de ce point de vue-là, il a entièrement raison. Il y a eu 3 tentatives d'assassinat. C'est un vrai miracle que de la Cama n'ait pas été tué, non seulement contre lui, mais le secrétaire général du parti a été grièvement blessé dans un attentat. Le délégué de la RENAMO au Conseil national de défense, qui est une instance officielle du pays, a été assassiné. Et en brousse, il y a des dizaines de militants locaux et de délégués locaux de la RENAMO qui sont assassinés et dont on n'entend jamais parler. C'est un petit peu une situation qui commence à ressembler à cette dictature latino-américaine avec des gens qui disparaissaient, vous voyez. Et donc face à ça, cela pousse la RENAMO à retourner davantage en brousse, et elle-même se met à tuer des responsables du Frelimo. Mmh. Et votre auditeur tout à l'heure disait qu'il y avait un risque de guerre civile. Malheureusement, il y a de nouveau guerre civile au Mozambique. Parce que dans certaines régions du pays, les affrontements sont de la même intensité que pendant la longue guerre civile de 1977 à 1992. Mmh. Donc il n'y a pas des négociations ouvertes en ce moment. D'ailleurs, je pense que personne n'a intérêt à des vraies négociations à ce moment, parce que le Frelimo continue à penser qu'il peut écraser l'Arenamo en tuant de la Camas, ce qui est une grave erreur, et l'Arenamo, elle, a intérêt à améliorer son rapport de force pour entrer dans des négociations un petit peu plus tard.
Donc, situation alarmante à vous entendre, Michel Cahen. La guerre civile a repris. Je rappelle que la précédente guerre civile avait fait plus d'un million de morts durant 25 ans. Merci d'avoir été avec nous, Michel Cahen. À suivre les infos, et on revient dans 10 minutes.